Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme, dans laquelle nous reviendrons sur la visite du pape dans le quartier de Palmarola, à la périphérie ouest de Rome, jeudi 6 juin dans l'après-midi, pour le troisième rendez-vous de l'école de prière en vue du jubilé. Nous serons également à Ouagadougou, au Burkina Faso, où le secrétariat permanent de la Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, a organisé du 5 au 7 juin un atelier de formation sur le renforcement de capacités de plaidoirie pour la justice et la paix dans l'espace CERAO. Vous entendrez Mgr François-Xavier Nyonsou, évêque de Dassazoumé au Bénin. Après l'actualité sociopolitique sur le continent, nous parlerons de la 10e conférence des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, du 5 au 10 juin, dans la capitale Bissau-Guinéenne. Elle réunit une quarantaine de délégués de l'espace CERAO. Et nous terminerons cette édition par l'actualité internationale de la semaine.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Avant le développement de ces titres, sachez qu'un moment de prière a eu lieu vendredi 7 juin dans les jardins du Vatican à l'occasion du 10e anniversaire de l'invocation pour la paix en Terre Sainte. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le pape François était jeudi dans le quartier de Palmarola, dans la banlieue ouest de Rome, pour le troisième rendez-vous de l'école de prière en vue du jubilé. Dialogue avec une trentaine de familles, personnes âgées, couples et jeunes, prévenus à la dernière minute de l'arrivée du souverain pontife. Défendons la famille, l'oxygène pour élever les enfants. Si les parents se disputent, c'est normal, mais il faut toujours faire la paix avant la fin de la journée. La guerre froide, le lendemain, est terrible, a notamment indiqué le pape au cours de cette visite. Le Saint-Père, qui a exprimé sa reconnaissance, sa proximité, son affection jeudi aux membres du dicastère pour le clergé réuni à Rome, qui selon lui travaille souvent dans le silence et la discrétion au service des ministres ordonnés et des séminaires. Le pape leur a proposé de renforcer certains enseignements au séminaire et a souligné l'importance du réseau contre la solitude et pour faire circuler les bonnes pratiques face à la baisse des vocations. Il leur a demandé de réfléchir au diaconat de la charité. Le pape a reconnu avoir souvent mis en garde contre les dangers du cléricalisme et de la mondanité spirituelle, mais s'est dit bien conscient que la grande majorité d'entre eux travaillent avec tant de générosité et d'esprit de foi pour le bien du saint peuple de Dieu en portant le poids de tant de labeurs et en affrontant des défis pastoraux et spirituels qui ne sont pas parfois faciles à relever. Le Saint-Siège plaide pour une solution à deux États, israéliens et palestiniens. C'est ce qu'a rappelé le chef de la diplomatie vaticane, Mgr Paul Richard Gallagher, jeudi dans un discours prononcé à l'ambassade israélienne près le Saint-Siège à l'occasion du 16e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Mgr Gallagher, qui a aussi exprimé son attachement à ce que les communautés catholiques en Israël puissent continuer à contribuer en tant que partie intégrante de la société israélienne dans les domaines de l'éducation et du bien-être, ainsi que dans la promotion du dialogue interreligieux et œcuménique. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, le secrétariat permanent de la Conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest, CERAO, a organisé du 5 au 7 juin à Ouagadougou, la capitale burkinabé, un atelier de formation sur le thème « Renforcement des capacités de plaidoirie pour la justice et la paix dans l'espace CERAO ». Cet atelier a rassemblé des membres des commissions justice et paix et des directeurs nationaux de Caritas de la CERAO a eu pour objectif la mise en route d'un mécanisme concerté et stratégique en vue des changements significatifs et transformateurs dans les régions touchées par le terrorisme, les conflits et conduire à une Afrique de l'Ouest plus résiliente, plus stable et prospère. L'un des participants, Mgr François-Xavier Nyonsou, évêque de Dassazoumé au Bénin et chargé de la commission pastorale Famille, Vie et Laïque de la CERAO, salue ici l'initiative de cet atelier qui, selon lui, leur a beaucoup appris.
Le sujet est actuel et très important. Et si nous voyons la situation, pas seulement de la sous-région africaine, Il y a beaucoup de conflits partout dans le monde. Les hommes appartiennent à une seule humanité. Et quand il y a des conflits, nous sommes tous affectés. Et nous devons tous nous asseoir pour réfléchir et pour trouver les voies de sortie pour la paix dans le monde. Cet atelier, nous avons beaucoup réfléchi. Comment nous allons trouver, avec nos limites humaines, mais avec nos capacités, dans la foi, de trouver les voies et moyens. D'abord, c'est la capacité d'écoute et de réaction d'agir. On nous a appris comment écouter et comment détecter les conflits et comment aborder les conflits, trouver les moyens. Nous avons d'abord les moyens de l'éducation, de la communication et des rencontres et les moyens aussi de prendre en considération tout le monde. Alors, nous avons parlé de plaidoyer, comment amener un plaidoyer pour pouvoir toucher le cœur sans aller en guerre contre ceux qui font la guerre, contre les victimes. Donc, c'est ce moyen-là. Alors, comment faire, comment écouter, comment écrire, comment éduquer, comment aller vers pour susciter l'engouement et la participation de tous. Voilà, donc on nous a beaucoup appris et nous avons eu beaucoup d'expériences de partout dans la sous-région, comment les gens ont procédé pour pouvoir toucher le cœur ou aider à apaiser ou à atténuer les conflits.
Monseigneur François-Xavier Nyonsou, évêque de Dassazoumé au Bénin, est chargé de la commission pastorale Famille, Vie et Laïque de la CERAO. En Zambie, Mgr Charles Kassondé, évêque du diocèse de Solwezi, a procédé dimanche à l'envoi en mission de 15 nouveaux membres de la commission diocésaine Justice et Paix au cours de la messe célébrée en la cathédrale Saint-Daniel. Dans son homélie, Mgr Kassondé a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur des faits concrets obtenus grâce à des recherches rigoureuses lorsqu'il s'engage sur des questions relatives à la justice et à la paix. Rassuré du fait que ces nouveaux membres ont acquis les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien leur mandat de promotion et de la défense de la justice et de la paix, conformément à l'enseignement social catholique, l'évêque de Solwezi a invoqué l'Esprit-Saint pour qu'il descende sur ces nouveaux commissaires et accompagne leur mission évangélique de promotion et de défense de la dignité et des droits de tous dans le diocèse. L'actualité socio-politique africaine à présent. Des militants pro-démocratie au Soudan ont fait état vendredi d'environ 40 civils tués dans de violents tirs d'artillerie des paramilitaires sur des quartiers d'Omdurman près de la capitale Khartoum, énième illustration de l'impact du conflit sur une population terrassée par une crise humanitaire. Le comité de résistance de Karari, du nom d'un quartier d'Omdurman, dans la banlieue nord-ouest de Khartoum, impute les frappes d'artillerie menées mercredi aux forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023. Le procès de tentative de coup d'État que l'armée de la République démocratique du Congo dit avoir déjoué le 19 mai dernier s'est ouvert vendredi à Kinshasa pour une cinquantaine d'accusés, dont plusieurs étrangers. Le tribunal correctionnel de Tripoli a condamné l'ancienne diplomate Amal Gerari à 7 ans de prison après l'avoir reconnu coupable d'actes visant à obtenir des avantages illicites, détournement de fonds publics et atteinte à l'intérêt public. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du bureau du procureur sur les réseaux sociaux jeudi. Elle a été en outre condamnée à une amende équivalente au double des sommes détournées, a ajouté le communiqué. La 10e conférence des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, UPAO, se tient du 5 au 10 juin dans la capitale Bissau-Guinéenne. Ils prennent part au moins 38 délégués des prêtres de l'espace CERAO. Le thème qui anime leurs échanges est le rôle prophétique du prêtre catholique face à l'intolérance, à l'instrumentalisation ethnico-religieuse en Afrique subsaharienne. L'abbé Aloïs Séné, prêtre de Kaolack au Sénégal, est président de cette conférence. Il nous situe sur cette rencontre et ses objectifs.
Cette rencontre tourne essentiellement tout d'abord autour de la fraternité. Fraternité sacerdotale qui nous unit, nous tous en tant que prêtres, mais aussi en tant que prêtres diocésains de l'Afrique de l'Ouest. Mais au-delà de la fraternité, il y a aussi le partage d'expériences. C'est vrai, les réalités sont presque similaires en Afrique subsaharienne, mais d'un pays à un autre, d'un diocèse à un autre, il y a aussi des particularités relatives à chaque pays, à chaque diocèse. Nous partageons aussi ce que nous vivons en paroisse, ce que nous vivons dans nos structures diocésaines et de pays. Ensuite, troisièmement, plutôt pour finir enfin, cette rencontre tourne aussi autour d'une rencontre de réflexion autour d'un thème, des thèmes édifiants, mais des thèmes aussi qui nous interpellent en tant que défi actuel, surtout en Afrique subsaharienne. Voilà.
Merci beaucoup, mon père. Et le rôle prophétique du prêtre catholique face à l'intolérance et à l'instrumentalisation ethno-religieuse en Afrique subsaharienne, c'est le thème que vous avez choisi pour votre 10e rencontre de l'URPAO. Pourquoi ce thème?
Exact, c'est un thème interpellatif, comme les autres d'ailleurs de l'année dernière plutôt. Un thème qui nous interpelle directement parce que on n'a pas encore fini de remarquer que dans nos pays, dans nos différentes régions, dans cette sous-région subsaharienne, il y a toujours un problème encore assez récurrent de l'intolérance. L'intolérance qui est liée soit à la région, soit à l'origine, soit à l'ethnie, à la religion, mais aussi liée à la personne en tant que n'habitant pas là, en tant qu'étranger, en tant que migrant. Mais aussi, l'autre plus grave qui lui est semblable, c'est cette instrumentalisation de l'ethnie, cette instrumentalisation de la religion, vraiment au profit de quelques groupes sociopolitiques surtout. Alors, tout cela réuni, nous avons remarqué qu'il y a quelques périodes qui sont très remarquables et remarquées aussi, durant lesquelles on sent cette intolérance, on sent beaucoup plus aussi cette instrumentalisation. Je vais vous donner un exemple. Durant les périodes de campagne électorale, de plus en plus, il y a des partis politiques ou encore des groupes sociaux ou des groupes sociopolitiques qui n'hésitent pas à utiliser une telle frange de la population pour utiliser l'ethnie ou encore la religion pour se faire entendre. Et ça devient récurrent en Afrique subsaharienne. Et on se pose la grande question, mais en fait, nos gouvernants, ceux-là qui pensent ou qui prétendent apporter le salut, mais qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme moyen? Voilà la grande question qui nous a un petit... Voilà.
Oui, merci beaucoup. Et donc, vous êtes à la 10e édition des Rencontres des prêtres de l'Afrique de l'Ouest. Et les buts, les objectifs que vous visez, c'est toujours la fraternité, la solidarité, ou bien il y a d'autres objectifs que vous visez en vous réunissant chaque année?
Mais oui, au-delà de la fraternité, de cette solidarité, comme je le disais tantôt, il y a aussi ce partage d'expérience qui peut nous intéresser, nous tous. Mais dans l'avenir, on vise aussi ce moyen qui pourrait renforcer la fraternité. Ça serait l'échange, par exemple, de personnel au service des populations. Aujourd'hui, des prêtres pourraient quitter le Sénégal pour aller servir en Guinée, comme des séminaristes pourraient quitter le Sénégal pour aller se faire former au Nigeria, ainsi de suite, de sorte à renforcer cette coopération, à renforcer aussi cette ouverture à d'extra pour mieux nous enrichir, pour mieux enrichir et pour mieux servir nos populations aussi.
L'abbé Aloïs Séné, prêtre de Kaolack au Sénégal, président de l'UPAO, Afrique de l'Ouest. Terminons cette édition par le magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine, Stanislas Kambashi.
La guerre à Gaza est entrée vendredi dans son 9e mois après son déclenchement par Israël suite à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. En 9 mois, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, ravagé une grande partie de la bande de Gaza et déraciné la plupart de ses 2,4 millions d'habitants confrontés à un risque de famine. Vendredi, des frappes israéliennes ont touché un camp de réfugiés dans la bande de Gaza après une attaque meurtrière contre une école gérée par l'ONU. Suivons ces détails de Valérie Ferron.
3 missiles de forte puissance se sont abattus sur une école gérée par l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, alors que les familles déplacées qui s'y abritaient étaient en train de dormir. Les explosions ont détruit des salles de classe sur 2 étages, faisant des morts parmi les femmes et les enfants présents. Les blessés ont été transportés à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, le seul à fonctionner encore partiellement dans cette zone et qui est incapable de faire face au flot des blessés qui arrivent non seulement de cette école, mais des quatre camps de réfugiés de la zone, cibles de bombardements et d'opérations terrestres. L'armée israélienne a, selon son habitude, affirmé que les tirs de missiles sur l'école visaient des membres du Hamas et du djihad islamique. Elle estime en avoir tué une trentaine. Depuis le mois d'octobre, Israël a systématiquement bombardé et assiégé de nombreuses écoles gérées par l'UNRWA. Cette agence des Nations Unies fait par ailleurs l'objet actuellement d'un projet de loi du Parlement israélien visant à la déclarer organisation terroriste. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à la cessation des hostilités le long de la ligne de démarcation fixée par les Nations Unies entre Israël et le Liban, s'inquiétant d'un risque de conflit plus large aux conséquences dévastatrices pour la région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite en France, a exhorté vendredi ses alliés occidentaux à en faire plus pour aider Kiev face au conflit sur son sol, au lendemain des cérémonies des 80 ans du débarquement en Normandie au nord-ouest de la France. Les élections européennes. Les Européens sont appelés aux urnes pour élire les députés qui vont les représenter au Parlement européen. Les Irlandais ont commencé à voter vendredi, avant les Tchèques et après les Néerlandais qui ont voté jeudi. Au moins 18 combattants ont été tués dans des affrontements mercredi entre forces pro-gouvernementales yéménites et rebelles houthis dans le nord-ouest du Yémen, ont affirmé jeudi deux responsables militaires. Cette attaque survient alors qu'une relative accalmie prévaut au Yémen depuis un accord de trêve négocié en avril 2022 sous l'égide de l'ONU. La situation demeure néanmoins très précaire, ponctuée par des accès de violences sporadiques. Le soleil toujours au plus haut. Les investissements dans l'électricité solaire pourraient surpasser en 2024 ceux consacrés à toutes les autres sources de production électrique, a indiqué jeudi l'Agence internationale de l'énergie dans un rapport annuel. Chypre, la Roumanie et la France présentent les taux de surpopulation carcérale le plus important en Europe. Et leurs chiffres se sont aggravés depuis la fin de la crise du Covid-19, selon les statistiques annuelles du Conseil de l'Europe publiées jeudi. Les chiffres se présentent ainsi, 166% pour Chypre, 120% pour la Roumanie et 119% pour la France. Devant la montée en puissance du programme nucléaire iranien, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a adopté mercredi à Vienne une résolution rappelant formellement à l'ordre Téhéran. L'Iran, qui a promis de riposter, a jugé cette initiative précipitée et déraisonnable, mettant en garde contre un effet destructeur sur les processus diplomatiques. Le texte déposé par Londres, Paris et Berlin a été approuvé par 20 pays sur 35. La Russie et la Chine ont voté contre, tandis que 12 pays se sont abstenus. Les recherches pour retrouver les corps des centaines de villageois présumés ensevelis par un vaste glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée fin mai ont été arrêtées, a annoncé l'armée mercredi, la zone étant trop dangereuse pour y mener des opérations. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a suspendu mardi l'intégralité d'un accord militaire de détente conclu en 2018 avec la Corée du Nord, quelques jours après l'envoi par Pyongyang des centaines de ballons remplis d'immondices de l'autre côté de la frontière. L'armée philippine a affirmé mardi que des bateaux chinois avaient saisi illégalement des vivres et des médicaments largués par avion à un avant-poste philippin en mer de Chine méridionale, accusant la Chine d'ingérence agressive et non provoquée. L'élection de Claudia Sheinbaum, première présidente du Mexique, a été saluée lundi par les partenaires du plus grand pays hispanophone au monde. Claudia Sheinbaum a remporté une victoire écrasante aux élections, devenant la première femme qui va diriger le Mexique. Diego Calmar nous en dit plus.
C'est une femme de gauche, elle a 61 ans, elle était maire de Mexico il y a encore peu. C'est aussi une scientifique hautement diplômée. Claudia Sheinbaum a été élue première présidente du Mexique alors que près de 98 millions de Mexicains étaient appelés aux urnes. Elle a devancé sa concurrente de droite, Xochitl Galvez. Claudia Sheinbaum a promis de poursuivre la politique sociale menée par son prédécesseur et mentor Andrés Manuel López Obrador, avec qui la pauvreté a baissé durant son mandat. Le plus dur arrive pour Sheinbaum qui hérite d'un pays au système de santé déficient et une violence galopante due à la guerre des cartels. Elle promet une réforme de la justice car selon elle, la violence est due au fort taux d'impunité. Au Mexique, 95% des délits restent impunis. Évidemment, sur ses épaules repose aussi l'espoir de millions de Mexicaines victimes du machisme. Dans un pays où plus de 3000 femmes meurent de féminicide chaque année, Sheinbaum et son gouvernement paritaire seront attendus au tournant. À Mexico, Diego Calmar pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
À mes auditeurs, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. À très bientôt.